Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Eh bien, vous avez pu suivre Radio Espéranto en direct de Saint-Imier, des rencontres internationales de l'anarchisme qui se déroulent actuellement et jusqu'à dimanche. Et maintenant, nous passons à des interviews qui ont été spécialement programmées avec des personnes qui sont présentes à Saint-Imier pour ces rencontres.
Donc effectivement, ça paraissait important de parler évidemment de tout ce qui se passe dans tous les pays qu'il y a sur la planète, puisque le capitalisme sévit un peu partout et il y a des résistances un peu partout. Et dans ces résistances, il y a des résistances anarchistes. Et évidemment, la Grèce qui est malheureusement pour les Grecs aux premières loges sur ce qui se passe en ce moment en Europe en tout cas. Donc effectivement, sur la Grèce, d'une part, il y avait un débat prévu auquel je n'ai pu assister tout simplement parce qu'il y avait tellement de monde que j'ai même pas pu avoir une place dans le couloir autour de la salle. Et effectivement, il y a quand même un intérêt très fort sur les résistances qu'il y a en ce moment en Grèce. Et donc pour parler un peu rapidement, puisqu'on a une petite heure, on a avec nous Yannis Ilountas, avec qui d'ailleurs on a déjà fait une émission très intéressante de Radio Libertaire, et je pense qu'on peut aller la voir sur YouTube, sous une forme d'ailleurs très agréable, par thème. Voilà, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Yannis, pour aller très vite, d'abord tu es grec d'origine, tu vas très souvent en Grèce, tu participes à l'équipe de ciné mensuel, et tu as écrit aux éditions Libertaires deux livres très intéressants, dont l'un spécifiquement sur la Grèce, qui s'appelle « Paroles des murs d'Athènes », c'est ça. Et un autre, « Derrière les mots », et là aussi sur Internet, on trouve un petit montage que tu as fait, là, un peu avant les vacances, assez amusant et assez intéressant autour de ce livre. Donc ces deux livres, on peut se les procurer dans les bonnes librairies, notamment à Publico, et c'est aux éditions Libertaires. Et on a aussi avec nous Samuel Val, qui va nous parler, alors on va d'abord parler un petit peu de la situation actuelle en Grèce, de l'actualité. Mais bon, de toute façon, ce film, on parle. Ce film s'appelle Grèce générale, donc qui devait être diffusé, je crois qu'il n'a pas pu, sans doute pour des raisons techniques. Enfin bon, on va parler de tout ça. Comment vous avez conçu ce film, ce documentaire, et dans quel esprit vous l'avez fait? Comment vous pensez l'utiliser? Et est-ce que ça amène des débats? Enfin, ça, on aura l'occasion d'en parler, notamment à Yannis, bien sûr, qui le connaît bien. Et donc, autour des micros, Serge, Monique à la technique, et Jean-Pierre aussi, qui nous a rejoint. C'est un sujet qui l'intéresse beaucoup, il a envie de poser des questions. Voilà. Donc, et puis aussi, des auditeurs dans la salle. Bonjour, Aude. Voilà. On va démarrer peut-être avec Yannis. Effectivement, on ne va pas te demander, comme on a fait dans l'émission de 2 heures, de refaire l'historique, de parler un peu des diverses propositions qu'il peut y avoir pour sortir de la situation actuelle. Mais je préfère partir de ce qui... Qu'est-ce qui te paraît, toi, important de dire dans l'actualité très récente? On est sorti des élections avec une majorité faible pour le parti de droite, mais avec le système de répartition des voix qu'on ne va pas détailler. Ça donne à la droite une majorité, finalement, avec quelques alliés. Désespoir tout de même, beaucoup d'espoir d'ailleurs, de changements qui continuent, des luttes certainement. Donc je te laisse un petit peu le choix pour nous dire ce qui te paraît le plus important. Après, peut-être on posera des questions pour préciser et on parlera aussi du film, bien sûr.
Bonsoir. Oui, actuellement en Grèce, il se passe pas mal de choses, d'autant plus que l'événement nouveau, c'est cette fin de période électorale qui était à rebondissement, puisqu'on a eu droit à 2 élections coup sur coup. Et durant la seconde, donc, ce terme particulièrement triste, puisque ça va conduire la Grèce à être toujours plus dans cette voie de la subordination aux puissances financières. Néanmoins, l'opportunité libertaire là-bas est relativement intéressante, en ce sens qu'il n'y aura pas une désillusion politique avec un gouvernement qui peut-être n'aurait pas pu faire grand-chose. Bien qu'il avait peut-être de bonnes idées, hein, ce projet Syriza, pour certains points, notamment le refus de payer la dette, sur certains points, par rapport à cette histoire aussi de la dette allemande qui a été payée et versée à tous les pays d'Europe, à l'exception de la Grèce, puisqu'à l'époque c'était la guerre civile. à l'époque où elle était payée un petit peu partout. Et puis, donc il y a une opportunité par rapport à une forme de décompression et de désillusion, et la nécessité de repartir de façon plus lucide par rapport à des projets plus concrets sur le terrain. Quand je parle de terrain, je veux dire en ville, notamment les espaces sociaux libres, les créations de liens sociaux, et surtout à la campagne, puisqu'actuellement, il y a un exode urbain très important à Athènes, et encore plus important depuis les élections. Il y a toujours autant de rideaux de magasins fermés. Il y a beaucoup de logements en location qui ne trouvent pas de locataires, ou à vendre qui ne trouvent pas d'acquéreurs, tout simplement parce que tout le monde fuit Athènes, puisqu'on n'arrive plus à vivre, alors qu'à la campagne, dans les chorio, comme on dit, c'est-à-dire dans les petits villages de campagne où les gens n'ont pas une maison secondaire, mais ont simplement une cabane pas loin de la maison de leurs grands-parents, par exemple, ben, ils recommencent à cultiver un petit bout de jardin, essaient de réparer des choses qui étaient laissées à l'abandon, des véhicules qui étaient laissés à l'abandon, par exemple, essaient de trouver d'autres moyens de s'organiser, créer du lien, et inventent des procédés qui, en France, ne sont pas vraiment nouveaux, les AMAP, les SEL, etc., mais qui, là-bas, sont non seulement développés, mais même encore plus pertinents quelquefois, avec des innovations dans ces domaines.
Oui, d'ailleurs, sans faire le parallèle, la situation était différente, mais en Argentine aussi, quand y compris les classes moyennes ont été acculées d'un stress à des problèmes de survie alimentaire, effectivement, il y a des choses, enfin, tu connais, on ne va pas développer là-dessus, puisque de toute façon, je crois qu'on aura un autre sujet avec des Argentins, mais enfin, là aussi, il y a des initiatives populaires qui sont prises et très fortes, hein. Donc c'est un petit peu le parallèle. Tu parles de la campagne, j'ai eu l'occasion là, à la foire autogestion de discuter avec un compagnon grec que j'ai découvert et qui lui en fait était en Crète, et il disait, alors je sais pas si tu as des échos là-dessus, mais il disait qu'il y avait, je sais plus, un certain nombre de communes, mais assez importants, qui s'étaient complètement autonomisées de l'État et qui se coordonnaient entre elles, etc. Je sais pas si tu peux en parler, oui. Si tu as des échos, ça m'a beaucoup intéressé, mais il a pas eu le temps de...
Pas loin de Rétimnon en Crète, je connais un exemple en tout cas, il paraît qu'il y en a un autre en Thessalie, c'est-à-dire plus en direction du nord, vers Salonique. En fait, c'est des initiatives autogestionnées de fait par la contrainte, on va dire. Hein. C'est un peu comme le cas de l'hôpital de Kilkis, c'est un peu le cas du journal Eftelotipia. À chaque fois, dans tous les domaines, c'est par la contrainte, finalement, et c'est peut-être valable aussi pour les individus, je crois. Donc, pour les groupes, que ce soit politique, en l'occurrence une commune, ou qu'ils soient économiques, en l'occurrence un journal ou un hôpital, même si la fonction n'est pas qu'économique, bien sûr, il y a une contrainte qui conduit, finalement, le groupe à essayer autre chose. Et cette autre chose, c'est une formule plus autogestionnaire et coopérative. C'est ça qui est assez intéressant. Par contre, il faut reconnaître que le fonctionnement illimité, comme pour le cas de l'hôpital, avec les urgences qui marchaient, et encore, avec des moyens qui n'étaient pas forcément tous ceux qu'on pouvait espérer. Donc pour l'instant, c'est balbutiant, mais c'est quand même très intéressant. Et je pense que cet aspect-là de la contrainte est déterminant. C'est-à-dire que quelquefois, il faut que les événements nous donnent un coup de pied au cul, excusez-moi de le dire comme ça, y compris pour les individus, pour qu'on se rappelle un petit peu aux valeurs essentielles qui sont les nôtres en termes de liberté, puisqu'on parle ici sur Radio Libertaire, et donc tout ce qui constitue les fondamentaux historiques, idéologiques et même étymologiques du mot anarchie ou du mot libertaire nous conduisent à nous questionner sur l'alignation dans laquelle on peut tomber. Par exemple, quand on parle de décroissance, puisque là-bas, c'est de la décroissance subie, 7 à 10% de décroissance, de baisse du PIB, comme on appelle, puisque c'est le critère, même si nous, il ne nous plaît pas beaucoup, on peut considérer quand même que cet état de fait conduit les personnes à modifier un mode de vie dans lequel ils étaient un petit peu endormis, un peu perdus, et finalement, dans ce contexte, des idées assez intéressantes peuvent se diffuser. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas le contraire aussi qui se produise, c'est-à-dire des réactions extrêmement violentes. Et c'est pour ça qu'il y a une hausse très importante dans cette région du monde, d'Europe, de l'extrême droite.
Oui, alors justement, dans des périodes comme ça, qui viennent malheureusement à travers un cataclysme économique, à travers, par exemple, au Japon, un cataclysme à travers le nucléaire, on aura l'occasion d'en parler d'ailleurs avec des compagnons japonais, effectivement, on retrouve toujours une espèce de semi-effondrement de l'État, et une nécessité tout simplement de survie, comme tu l'as dit. Et je pense que c'est une période où comme les gens retrouvent la solidarité. Mais en plus, au-delà de ça, je pense que les propositions libertaires, anarchistes, peuvent être mieux comprises à ce moment-là. Et je voulais te demander ce que tu sais, toi, de l'analyse que font des compagnons ou des compagnes anarchistes en Grèce de la période. J'imagine très bien qu'ils sont dans l'action, j'imagine très bien, sachant qu'ils ont déjà dans des quartiers en Athènes quand même des expériences assez longues de fonctionnement de type libertaire, etc. Est-ce qu'ils ressentent justement cette plus grande perméabilité aux propositions anarchistes, à dire voilà comment on pourrait s'organiser, etc. Est-ce que tu as des échos par rapport à ça?
Oui, mais le problème, c'est qu'on revient de très loin en Grèce. Mmh. C'est-à-dire que si en France, il y a un peu de respect, on va dire, à l'égard des anarchistes, même si de la part d'une certaine gauche, hein, pas de tout le prisme politique. Mais disons qu'il y a un petit peu de respect par rapport à d'autres régions d'Europe, peut-être, à l'égard des anarchistes, à cause de la Commune de Paris, de 36 en Espagne, etc. Il y a quelques personnes qui, sans partager toujours nos idées, peuvent éventuellement s'y intéresser, en tout cas les respecter. En Grèce, l'anarchiste, jusqu'ici, c'était le terroriste. Hein, à cause du mouvement du 17 novembre, notamment, il y avait une vision très, très négative de l'anarchiste, qui peut s'expliquer aussi pour une autre raison, à la différence de la France encore, c'est qu'en France, il y a une forte laïcité, même si elle n'est pas respectée dans toutes les régions de France. Hein, on a un ami du groupe de Besançon, donc, qui connaît bien l'Alsace et la Moselle, et donc il y a un statut différent dans ces régions-là par rapport à la laïcité, Alexandre. On a en Grèce une absence totale de laïcité, c'est le pays le moins laïque en Europe, donc par conséquent, les idées anarchistes, avec le slogan du Dunimètre en premier lieu, ont du mal à pénétrer les esprits. Il y a un blocage sur ce plan-là. Ce qui a posé longtemps problème à la diffusion des idées anarchistes en Grèce, ce n'est pas le Dunimètre, qui est presque consubstantiel à l'esprit grec, mais ça serait plutôt le ni-dieu. Voilà. C'est le problème de l'athéisme, d'une vision lucide de l'existence, dépourvue d'illusions, qui a freiné ce développement. Donc après, il y a aussi le fait que l'anarchisme en Grèce s'est développé durant la fin des années 70 et début des années 80, avec des procédés un peu violents, comme dans d'autres régions en Europe. Pas tous les anarchistes, bien sûr, hein, je sais bien, mais quand même, il y a eu des groupes plus ou moins autonomes qui étaient allés loin dans les formes de lutte. Et qui ont laissé une trace. Voilà. Nous, en France, on pense à la bande d'Abono, c'est assez loin. Pour les Grecs, c'est assez frais. Et du coup, on a du mal quand même à renverser la vapeur au niveau de l'opinion publique.
Moi, j'avais une question à te poser justement sur cet aspect de l'importance qu'a l'Église en Grèce et encore dans d'autres pays. Je ne vais pas faire le parallèle, la situation a été différente, mais quand même. J'ai très bien connu ce qui s'est passé en Pologne avant, pendant et après Solidarność. Et c'est une période où la mainmise de l'Église a été largement remise en cause, en tout cas dans le mouvement ouvrier, mais très largement. Et elle a été extrêmement inquiète. Bon, je n'ai pas le temps de développer sur les magouilles qu'elle a fait. Est-ce qu'à travers ce qui se passe, c'est quand même l'Église est quand même un très très grand propriétaire en Grèce, qui ne paye pas d'impôts. Dans la situation actuelle, est-ce qu'il n'y a pas quand même certaines réflexions dans la population, au moins d'une partie de la population?
Oui, c'est certain. Il y a une évolution du point de vue par rapport à, pas forcément à la croyance en Dieu, souvent par rapport à la religion, mais presque toujours par rapport à l'Église. Hein, c'est trois choses différentes. Hein. Donc, le déisme est encore là, mais le théisme beaucoup moins, et surtout l'appartenance au clergé, le respect de ses dirigeants est beaucoup moins prégnant, et ça se voit de plein de façons. Même la suppression des signes religieux dans les lieux publics, sont le fait des fonctionnaires eux-mêmes.
Et dans les périodes comme ça où toutes les institutions sont un peu ébranlées en général, qu'elles soient étatiques, qu'elles soient oppositionnelles d'avant, etc. Donc j'imagine qu'il y a une remise en cause, à part certains, de ces espèces de systèmes de partis politiques qui se passaient un petit peu la balle, comme on le revoit dans d'autres pays. Bon, déjà là-dessus, est-ce qu'il y a vraiment une remise en cause? Je pense qu'elle était déjà en marche depuis un certain temps, mais tu répondras mieux que moi. Et aussi vis-à-vis du syndicalisme. Parce que théoriquement, dans une période comme ça, entre autres, le syndicaliste pourrait avoir un rôle important de proposition aussi, de type de fonctionnement, à travers de l'équivalence de bourses du travail comme il y avait dans le temps. Donc est-ce qu'il y a une remise en cause aussi du fonctionnement de ces institutions théoriquement oppositionnelles que sont les partis, que sont les syndicats ou certains syndicats? Est-ce que tu peux parler un peu de ça?
Pour l'instant, sur le plan politique, c'est plutôt un parti qui est remis en question, oui. Sur la gauche, c'est le parti socialiste grec panhellénique en plus, hein. PASOK, Panhellénico Socialistico Koma, qui est tombé de 40% presque à 12%, même 11%. Donc l'émergence de Syriza fait que sur le plan du spectre politique, on ne sent pas forcément une remise en question du système partidaire, même si il y a quand même des balbutiements. Par contre, sur le plan syndical, il s'est passé des choses tout récemment qui contribuent à la remise en question profonde de l'organisation des syndicats et de la mainmise, en quelque sorte, des principaux sur tout le reste du mouvement.
Tu peux en parler un petit peu de ça?
Oui, sur le plan factuel, pour ne pas rester que sur les concepts et sur les éléments théoriques, il y a eu la fin de la grève des aciéries, hein, pas loin d'Athènes, près du côté du Pirée, si vous voulez, pour simplifier un peu le schéma géographique. Et donc, la fin des aciéries, de la grève des aciéries grecques, qui était la plus longue grève, hein, qui a duré presque un an, a été liée à plusieurs grandes erreurs des syndicats, si tant est que ce soit des erreurs. Et parmi les principales, ça a été de laisser venir les principaux responsables de Hop Doré, Chrissi Avgi, en soutien aux ouvriers en grève. C'était un événement énorme qui s'est produit il y a un peu plus d'un mois.
C'est-à-dire, tu veux dire que les syndicats ont laissé venir l'extrême droite.
Ils ont même discuté avec.
Et soutenir les ouvriers.
Oui, ça nous semble invraisemblable pour nous.
Ben oui. C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui. Eh bien, le PAME. PAME, c'est le grand syndicat de gauche, on va dire un peu marxiste, hein, qui est le principal syndicat, qui déjà avait commis quelques erreurs, à mon avis, sur le plan des actions au niveau du syndagma, devant le Parlement. La place du syndagma, c'est la place du Parlement, le Vouli, le Parlement. Et il y avait des libertaires qui avaient, notamment des Black Blocs, etc., qui avaient essayé de pénétrer dans le Parlement pour ouvrir les portes, hein, pas pour le détruire, ils s'étaient liés par un serment pour ne pas le détruire, pour ne pas mettre le feu, mais pour l'ouvrir à la population qui était en masse, hein, dans Athènes, durant le mois d'octobre passé, notamment. Il y avait eu des grosses manifestations durant deux grands jours de grève générale, très suivies. Et ils avaient empêché, ils avaient fait tout ce qu'ils avaient pu pour empêcher les libertaires de rentrer dans le Parlement, travaillant dans le même sens que la police, c'est-à-dire que les maths, c'est les CRS à Athènes. Donc, ils avaient déjà commis plusieurs fois ce genre d'exactions ou d'erreurs, hein, on interprétera comme on voudra. Et là, la dernière en date, c'est au moment des élections, de laisser venir les principaux responsables de Chrissi Avgi, considérant qu'il fallait laisser venir n'importe qui voulant bien soutenir le mouvement ouvrier. Et ça a tellement semé le trouble parmi les ouvriers que en grève, qui était en grève donc depuis 10 mois, je crois, que le mouvement s'est plus ou moins essoufflé et que une semaine plus tard, la police est arrivée, 6 cars de CRS sont arrivés donc au sud du Pirée et on fait en sorte de permettre à ceux qui voulaient travailler de reprendre le travail, qui n'étaient pas si nombreux d'ailleurs, hein, les jeunes entre guillemets. Et le résultat, c'est que ça a encore plus affaibli le mouvement et ainsi de suite. Et finalement, le PAME a décidé d'arrêter la grève. Quelques radicaux ont souhaité continuer, mais très peu nombreux. Du coup, tout s'est interrompu très vite. Et ça s'est produit il y a 15 jours pour finir. La fin de cette grève, ça date d'il y a 15 jours.
Mais cette grève...
C'était la plus longue de l'histoire de la
Grèce. Est-ce qu'il y a eu des organisations pour aider financièrement les grévistes?
Oui.
Est-ce qu'il y a eu des actions menées par des paysans qui amèneraient des légumes, par des gens qui font des essences pour les véhicules, puis de l'argent, quoi.
Oui, tout à fait. Et même venu d'ailleurs, hein, je connais un petit peu ce qui s'est passé au niveau des réseaux de soutien à la grève des aciéries grecques, qui était très, très importante. Et justement, ces gens-là ont été tellement choqués par cette erreur politique qu'ils ont beaucoup moins soutenu par la suite. Et donc, le fonds de solidarité s'est évaporé.
Je pense qu'on va peut-être faire une petite pause musicale avant de redémarrer, puis on parlera aussi, bien entendu, là, du film de Samuel Valle.
N'avez-vous pas de mémoire? Revoici les années noires qui montrent leur nez pas bien loin. Revoici les années 30 ou alors leurs descendants de fringues chic présentant bien. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, un gros Duce en fureur, voilà ce qui était en chemin. Aujourd'hui, ce qui s'avance, c'est la même pestilence. Et vous ne dites rien. N'entrevoyez-vous pas derrière la propagande grossière et les slogans assénés? Derrière l'homme providentiel quasiment tombé du ciel, juste à point pour nous sauver. Comme l'ombre, comme l'image, grisâtre, vieillie par l'âge, de la barbarie du passé. Même racisme, même brute, même vertige, même chute, et vous restez muet. N'ont-elles rien qui vous débecte ces publicités infectes qui maculent nos journaux? Est-ce parti, valet des riches, qui se prétend sur ses affiches doux et blanc comme l'agneau, qui déterre des peurs anciennes pour appeler à la haine sur fond d'Alpes et de drapeau, tandis que son chef ricane et triomphe et se pavane? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Ne voyez-vous pas l'évidence, les provoques et la violence qui montent dans ce pays, où sans honte, des cyniques, arrivistes politiques s'inclinent ou bien se rallient, où l'on prépare le lit de l'horreur et de la nuit en se pensant à l'abri? Quel tocsin faut-il sonner? Combien de cris désespérés faudra-t-il lancer ici? Quel tocsin faut-il sonner? Combien de cris faut-il lancer, putain, pour vous réveiller?
Année 30, Michel Buller, sur Radio Libertaire 89.4. Nous sommes en direct des Rencontres internationales de Saint-Imier. Et ce n'est pas spécialement parce que Michel Buller est suisse que j'ai mis ce titre-là, comme le laissaient supposer mes petits camarades autour des micros, là. Non, c'est d'abord parce que j'aime beaucoup Michel Buller et qu'en plus, année 30, c'est pas complètement déconnecté de ce qu'on était en train de dire.
Oui, donc toujours à Saint-Imier, bien sûr, toujours avec Yanis Luntas et avec Samuel Val, qui n'a pas encore eu l'occasion de s'exprimer, puisqu'on n'a pas encore abordé le film. Mais justement, on va le faire tout de suite. Et dans la période, c'est vraiment très important qu'il y ait le maximum d'informations sur ce qui se passe en Grèce, sur les résistances. Bon, on le fait à notre petite échelle de Radio Libertaire. Hein, j'espère que c'est très large, parce que ça doit nous faire réfléchir non seulement sur ce qui se passe en Grèce, mais sur ce qui se passe un peu partout en Europe, en Espagne, etc. Et peut-être malheureusement, ou heureusement, comme on l'avait dit tout à l'heure, en France, puisqu'il va falloir que les gens se bougent. Donc Samuel, je passe maintenant à la parole. Est-ce que tu peux nous dire comment est née l'idée de ce film, et comment vous l'avez conçu, et comment il se présente?
Oui, bien sûr, les conditions de production de ce film sont déterminantes pour le comprendre, puisque c'est un film action. C'est-à-dire que c'est un film de l'urgence, c'est une forme de ciné-tracte, même s'il ne propose pas une ligne immédiate, il se permet aussi de faire des détours en 10 minutes, mais d'aborder plusieurs points de vue. Alors, les conditions de production sont celles-ci. C'est dans le cadre d'un atelier qui visait à tester un nouveau logiciel de web documentaire. Mmh. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a abordé le film autour du thème de cet atelier qui était « Vive la crise !» Point d'interrogation. Alors là, j'aimerais donner la parole à Yanis pour qu'il nous donne la première phrase qui a ouvert le film, parce que c'est ça qui nous a amené à cette réponse sur « Vive la crise !» point d'interrogation.
Bien que dramatique, la situation en Grèce n'est pas une catastrophe, c'est même une chance.
Voilà, c'était effectivement un excellent point de départ pour nous. C'était le début d'une réponse. Ce n'est pas un film qui apporte des réponses, c'est un film qui pose des questions. Mais dans sa forme web documentaire, il permettait quand même de reconsidérer le mot crise dans son acception grecque, justement, c'est-à-dire le krinein, hein, en grec, le moment du discernement, le moment où les choses sortent. Et en rencontrant le texte de Yanis Yuntas, qu'il a écrit avec Raoul Van Eghem, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose là qui était en mouvement, dans ce moment-là en Grèce, très particulier, puisque les gens étaient obligés d'être dans une forme de dépassement. Et que nous, en France, on était concernés par ça, puisque ça sortait des frontières. Ça devait aller plus loin. Ce texte qui a des connexions avec la pensée situationniste. Voilà, on est ici dans un espace où on travaille vraiment la question libertaire, mais on est déjà là vraiment sur une ouverture. Donc c'est par ça qu'on a commencé ce film. Évidemment, les images qui allaient pour nous avec ça, c'était des images de détournement. C'est-à-dire que comme c'était un film d'urgence et un film d'action, on avait 12 heures pour faire les choses. qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas faire ? C'est un excellent point de départ. C'est-à-dire, une caméra, on en a une, on n'en a pas une. On a combien de temps pour aller tourner des images ? Un aller-retour en Grèce ? Non. Alors les images, elles existent déjà, elles sont produites massivement par les télévisions, par les médias de masse, par Euronews en l'occurrence, qui renvoient une image très blessante pour le peuple grec, c'est-à-dire très simplificatrice, d'une violence qui n'aurait pas de sens, d'une violence obstinée, mais qui n'est pas orientée. Alors on les a prises, ces images-là, on les a détournées, on les a retournées, et on a simplement apposé le texte de Yanis Yoluntas et de Raoul Van Eghem sur ces images-là. Voilà, ça c'était ça pour répondre ce qui a démarré ce film. Ensuite, ce film a pris corps d'une façon assez simple, en trois parties. Il nous a fallu aller au cœur, pour nous, théorique du problème, au cœur politique. Et les films, c'est aussi des aventures et des rencontres. Là, c'est une autre personne qui a été un vrai appui pour nous, c'est la rencontre avec Stathis Kouvelakis. Qui avait publié un long texte de 5 pages qui problématisait de façon politique ce moment-là. Hein. Il y a plusieurs moments aussi, c'est un film d'un moment. À partir de ces 5 pages, Stathis a accepté qu'on fasse une traversée de son texte et qu'on en garde 5 phrases. Voilà, c'était un petit peu audacieux. Et il s'est tout à fait retrouvé dans une lecture, certes assumée, subjective, mais avec une subjectivité multiple. Et c'était la première chose que je voulais dire, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas dite, c'est que ce film, il est collectif. Je l'ai fait moi, avec Réjeanne Trémel, donc c'est une aventure collective, et ça permet d'avoir des traversées à la fois subjectives des textes, mais dialoguées. Voilà. Et ça permet d'avoir des choix qui sont portés ensuite, dans lequel l'auteur, en l'occurrence, s'est retrouvé. On voulait garder le silence autour de cette partie théorique, c'est-à-dire qu'on avait simplement mis les phrases comme des cartons. C'est une des traditions du cinéma, et c'est plus celle du détournement de la première partie, c'est une autre forme qui est jugée comme assez audacieuse, parce qu'on tombe dans un moment où il n'y a que de l'écrit. Alors à quoi sert l'image ? On a enlevé l'image vraiment, parce qu'on est dans un moment de théorie, on est dans un moment en dur. Là encore, Yanis a été de bons conseils, parce qu'il nous a permis d'habiller ce texte avec une musique qui est celle de l'entêtement, qui est la musique populaire grecque, celle du rebetiko, du groupe qui s'appelle
Talimaniak Sena, un groupe de Toulouse qui voyage partout en France, notamment pour soutenir des journées de solidarité.
Voilà, et qui a donc permis aussi de rendre vivant cette traversée du texte. On a souhaité finir le film sur un événement particulier qui nous avait marqué, qui était qu'un poète qui est aussi allé dans la pensée et dans différents endroits de la pensée, et certains endroits sont critiquables aussi, mais qui est simplement retourné dans la rue. Un poète et un musicien, Mikis Theodorakis, et qui a été gazé dans la rue. Et un poète français, poète occitan, a décidé de lui répondre. C'est le poète qui s'appelle Serge Pey. Grâce à Yanis, on a pu avoir cette traduction de ce poème, de cette adresse d'un poète occitan à un musicien grec. Une traduction et une lecture par une jeune fille qui est Lisa Yoluntas, à qui est dédié ce film, parce que c'est une jeune fille qui a 18 ans, peut-être 19 maintenant, non 18 encore, et qui était dans les luttes. Et pour nous, cette parole entre ces artistes qui ont toujours combattu, qui ont combattu avec leurs armes de l'art, il était important qu'elle soit portée par les générations qui sont aujourd'hui dans les combats. Voilà, et donc ça, c'est la fin de ce film, si ce n'est que ce film n'a pas vraiment de fin, parce que c'est surtout un appel. Un appel à l'action. C'est un film d'urgence et c'est un film d'appel à l'action. Le moment même où il a été fabriqué, on est en mars, donc c'est il y a quelques mois, dans les médias français, la problématique qui nous intéresse en Grèce est quasiment dépassée. Les forces insurrectionnelles ont tout donné, se sont vidées, et on rentre dans une période électorale. Voilà, simplement. Nous, on avait bien vu qu'il y avait des choses bien plus profondes, parce qu'elles étaient ancrées, c'est ce qu'on essaie de montrer dans le film, bien plus profondément, et qu'elles peuvent durer largement au-delà de ce temps-là. Donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé de relever la chose et de publier ce film.
Je reviens un tout petit peu en arrière. Qu'est-ce qui a déterminé le choix du poète occitan ? Parce que c'est quelque chose qui m'est assez cher, personnellement, l'Occitanie, tu vois. Et vous avez fait ce lien entre l'Occitanie et la Grèce, entre ces deux poètes.
Le lien, c'est d'abord eux-mêmes qui l'ont fait. C'est-à-dire que Serge Pey s'est adressé, c'est pas nous qui lui avons passé commande, il s'est adressé à Mikis Theodorakis. Et il lui a envoyé ce texte-là, où il le décrit retournant dans la rue, où il le décrit en confrontation avec les forces de répression, et il le décrit rencontrant les gaz, les armes chimiques aujourd'hui, et étant encore capable, abîmé par ces armes, dans ce face-à-face, de rêver d'une Grèce qui soit celle dont il a toujours rêvé, sans doute. Voilà. Et ça, c'était tout à fait nécessaire. Alors, c'était aussi un appel à la musique des mots, parce que CHP, c'est quelqu'un qui écrit, mais qui interprète. Hein. Et donc, là, c'était encore une audace qu'on a eue de faire interpréter son texte. Mais comme je l'ai dit, c'était par quelqu'un qui est dans les luttes, donc qui peut porter cette voix. Simplement, cet appel à la musique, il était important pour nous aussi, parce qu'on ne souhaitait pas encenser la musique grandiose de Theodorakis, mais on a quand même choisi une de ses musiques pour finir, qui est une musique tout à fait méconnue, parce que ce sont des extraits des répétitions qu'il avait avec ses chœurs. Et c'est ce qu'on voulait dire à la fin, c'est que c'était pas le canto général, ou on croyait pas particulièrement à un moment crucial. On a pensé que si les ultralibéraux, si des forces coalisées voulaient faire de ce pays un laboratoire du pire, sans doute, nous étions dans un travail collectif qui était peut-être de l'ordre de la répétition, qu'il faudrait encore répéter, que ces choses-là dureraient, et qu'on n'était pas du tout dans le grand œuvre, mais que tout ça était bien au travail aujourd'hui. Voilà, donc c'est ces musiques-là de Theodorakis qu'on est allé chercher, qui sont méconnues, qui s'appellent Rehearsal, ça veut dire répétition. Voilà, et donc c'est sa période aussi où il était encore extrêmement jeune, avec Mélina Mercouri et avec des chœurs de jeunes gens. C'est cette vigueur-là qu'on veut porter. C'est à ça que ça sert de faire des images, c'est pour agir.
Et ce film, est-ce que vous avez eu l'occasion de commencer à le diffuser? Est-ce qu'il y a des débats autour? Comment ça se passe?
Oui, le plus possible, on cherche à ce qu'il soit accompagné de paroles, puisque c'est un film de questions, et c'est un film qui n'impose pas une ligne. Donc il doit susciter des paroles. Yanis Younoutas le porte avec lui, et j'en suis très heureux, parce que Yanis continue à aller en Grèce ou être en connexion avec beaucoup de gens, et ce film est pour moi, est vraiment un point de départ.
On l'utilise très souvent en début de soirée.
Voilà. On m'a proposé de l'amener ici, à Saint-Imier. J'étais très heureux de ça, parce que je crois que la vocation de ce film, c'est d'être international. C'est-à-dire que je suis très intéressé d'entendre les gens à Athènes, les gens à Thessalonique, les gens qui connaissent des situations particulières parler, mais je suis très intéressé que les regards se croisent sur cette situation grecque, parce que je pense vraiment qu'on est concerné. Alors, on a eu tout à l'heure un petit problème technique pour le diffuser. Finalement, c'est pas bien grave, parce que on aurait pu le diffuser, mais en fin de débat. Et ça, pour moi, c'était hors de propos, puisque ce film est tout sauf conclusif. Voilà. Donc, on peut le voir très facilement. On essaie de le porter nous-mêmes, de le porter avec de la parole, qu'il porte des débats, mais on l'a aussi mis en diffusion maximale sur Internet. Et puis, il y a des versions traduites maintenant du texte de Yanis et de Raoul Van Eghem. Donc, le titre est Grèce générale, et ça donne tout de suite le film.
Et est-ce que tu as la possibilité, toi, au niveau des groupes anarchistes qui te demanderaient de venir projeter ce film dans leur ville, tu pourrais venir?
Oui, je considère
qu'à certaines conditions, évidemment.
Qu'un auteur n'a pas de droit, il n'a que des devoirs. Donc, il faut effectivement accompagner ce film. Encore une fois, moi, mais Réjeanne Trémel aussi, qui l'a fait. Voilà, on souhaite que ça circule. La seule réserve qu'on a mise, c'est qu'on ne l'a pas nous-mêmes posté sur un site spécifique. C'est-à-dire qu'on l'a mis sur les plateformes. Chacun peut le garder après ou le déposer ailleurs. Mais on voulait avant tout qu'il circule. Et c'est vrai que moi, m'intéressant à ces questions d'un art situé, d'un art qui agit sur le monde et du monde qui agit sur l'art, notamment au sein d'une revue dont je suis dans le comité de rédaction, qui est la revue Cassandre Orchamps, j'ai souvent l'occasion de me déplacer pour accompagner des formes artistiques, etc. Et on le fait, et je suis venu jusqu'ici, et je suis ravi de participer à ces rencontres, c'est un grand moment.
Eh ben, hors antenne, tout à l'heure, on prendra rendez-vous pour l'automne en Bourgogne.
Ah, avec plaisir.
J'espère que ça a donné l'envie à beaucoup d'auditeurs et d'auditrices d'aller voir ce film et de débattre et d'agir, hein, parce que j'imagine que les débats sont très intéressants, mais c'est aussi pour que les individus se posent des questions sur aussi là où on vit en France. C'est certain qu'il faut aider les compagnons grecs, qu'il y a la solidarité, etc. Je vois que Monique...
Oui, en France ou ailleurs dans le monde.
Absolument, puisqu'on est à Saint-Imier. Partout dans le monde, sachant que on est surtout écouté dans la langue francophone, dans les zones francophones, mais on espère bien un jour d'ailleurs faire une radio internationale. Ça, c'est une autre histoire dont on en parlera plus tard. On va faire une petite pause musicale et une dernière séquence jusqu'à 8h où on attend des compagnons mexicains.
Un signal rap qui sera diffusé dans toute l'Alsace.
Tout plaqué, filoché mon rêve, plan sur la comète, voilier sur la grève, ensablé, isolé, encerclé de dettes, de silence radio sur la côte des squelettes. Mon amour, mon amour. Je suis à la frontière d'un pays sans âme, la nuit qui descend tombe comme un sabre. Voilà l'héritage de ce monde fou. Écris-moi mon amour, j'irai jusqu'où. Mon amour, la nuit qui descend fait gémir les cyprès penchés sous le vent. La lumière tremble encore, la colline s'efface. Silencieux, invisible, le bonheur qui part. Faut s'aimer encore, se serrer plus fort. L'océan te jette, la terre se défend. Je veux t'aimer encore, je veux t'aimer plus fort. La terre ne veut plus de ces beaux discours. Tu ne comprends pas, n'en fais qu'à ta tête. Tu finiras sur la côte des squelettes. Mon amour, le soleil rasant métallise la mer et les îles du Levant. Un nuage irradié, la lumière qui s'efface. Silencieux, invisible, le bonheur qui faut s'aimer encore, se serrer plus fort. Voir dans la tempête les fous de Bassan, la côte des squelettes, cargo dérivant. Faut s'aimer encore, faut s'aimer plus fort.
Bernard Lavillier, Identité Nationale, sur Radio Libertaire 89.4. Et nous remercions très très fort Anne qui est dans les studios à Paris et sans qui le direct ne pourrait pas avoir lieu. Merci Anne.
Bonjour Anne, j'espère que tu es intéressée par tout ce qu'on échange ici, comme tous les auditeurs, je pense. Donc rapidement, une dernière séquence, mais peut-être prolonger un tout petit peu sur des choses concrètes autour du film. Donc je rappelle Grèce Générale avec Samuel Valle qui est à nos côtés. Et on a bien compris, c'était un film qui est important pour engager un débat après, pour en plus montrer... Moi j'ai toujours été très sensible à la façon dont les médias dominants... déformer les situations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et en particulier des situations comme celle de la Grèce, puisqu'on parle de ça. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça, je suis à l'origine, un de ceux qui était à l'origine de Radio Libertaire, et je pense que c'est pas pour rien, c'est extrêmement intéressant d'avoir des moyens alors, d'informer sur ce qui se passe. Bien sûr, on n'a pas en détient pas la vérité, comme tu dis, mais de montrer la différence entre l'image que les grands médias donnent et la réalité que vivent les gens. Et ça, c'est très important. Donc, pour terminer, il y a peut-être un certain nombre de choses qui sont déjà prévues pour la diffusion de ce film. Je crois qu'Yanis souhaitait qu'on en parle déjà, pour si des auditeurs veulent aller l'écouter. Il y aura certainement d'autres demandes, je pense, par la suite.
Oui, il y aura notamment un rendez-vous, une série de rendez-vous outre la Bourgogne en Alsace. Et ça sera début novembre. Ceux qui peuvent être intéressés parmi les auditeurs de Radio Libertaire, pour que ça se passe aussi pas loin de chez eux, autour de l'Alsace, peuvent contacter Alexandre du groupe de Mulhouse, de l'AFA, puisque tout à l'heure j'ai dit Besançon par erreur, c'était Mulhouse.
Alexandre qui est dans nos studios d'ailleurs.
Voilà. Et qui prévoit des choses sur Strasbourg, sur Mulhouse, bien sûr, et aux environs, surtout en Alsace. Et donc, les gens peuvent se rapprocher de lui s'ils veulent mettre en synergie un peu tout ça. Et donc, Grèce Générale est un support privilégié pour démarrer le débat, justement. Hein. Et de façon à ce qu'on puisse faire le parallèle à ce qui se passe, entre ce qui se passe en Grèce, en France et ailleurs.
Est-ce qu'il y a un moyen, je ne sais pas, à travers Internet ou autre, de savoir, par exemple, en Alsace, je ne sais pas, est-ce que sur un site va apparaître, quand les dates sont fixées précisément, pour que concrètement... j'imagine que dans Cinémensuel, voilà. tu en parleras.
Alors,
peut-être
je le fais mettre dans voilà. l'agenda de Cinémensuel.
Voilà.
Moi, sur mon site, qui est en ce moment pas du tout à jour, il est en reconstruction, normalement, il devrait être au point dans une semaine. Donc, il marche, mais il va être au point dans une semaine. Je ne m'occupe pas assez de
ça. Tu fais beaucoup de choses, pareil.
Voilà, je ne passe pas assez de temps pour ça, mais je vais m'y mettre. Donc, il y a une nouvelle formule qui est en train de naître, et il y aura un agenda à la une avec tous les rendez-vous
pour
sur
accéder
la Grèce,
à ton site. Alors,
spécifiquement,
on fait quoi dans le moteur de recherche?
Top Yuluntas, et je crois que ça arrive en premier.
Avec ton nom, c'est bon.
En premier, ouais.
Yuluntas, donc. De toute façon, pour voir vraiment comment son nom s'écrit, vous pouvez acheter les deux livres. Je rappelle. Non, je fais pas de la pub pour faire de la pub, mais je pense que c'est des livres très intéressants parce qu'on parlait de l'art aussi tout à l'heure.
Non, mais ça,
et moi, par exemple, j'ai vécu des choses assez fortes sans y être, mais à travers des compagnons, et on en parlera d'ailleurs peut-être avec eux tout à l'heure, pendant la commune de Haraka qui a duré 6 mois, et pendant la commune de Haraka, il y avait des fresques, enfin c'est une tradition, enfin, vous savez, au Mexique, et des fresques absolument extraordinaires faites par des gamins de 13-14 ans, qu'on appelait d'ailleurs des graffeurs, qui ont participé à l'Assemblée populaire des peuples de Haraka. Les partis politiques n'aimaient pas trop. Hein. Bon, enfin, je ne vais pas faire l'histoire, on n'est pas là spécialement, mais je veux dire, dans une période comme ça, même les individus sortent des choses d'eux-mêmes, qui peut être du domaine de la musique pour certains, du dessin pour d'autres. Moi, j'ai vécu ça en 68. Donc, c'est important de voir toute la floraison d'initiatives. C'est des initiatives de lutte, mais c'est aussi des initiatives d'existence. Quoi. On existe. Mmh. Déjà, quand on lutte, on existe, mais en plus, des fois, on en profite pour sortir des choses, il peut être des poèmes, etc. Même si peu certains, et ça demande un certain travail. Donc je rappelle tes deux livres, donc particulièrement en liaison avec ça, Paroles des murs d'Athènes, donc aux éditions Libertaires, et un livre aussi Derrière les mots qui a beaucoup d'humour, hein, qui fait beaucoup réfléchir aussi sur un des moyens d'avoir qu'on utilise aussi pour détourner la réflexion des gens, les manipulations des mots, et essayer de démonter les manipulations, si je puis dire. Voilà, il nous reste encore une petite dizaine de minutes. Peut-être, je ne veux pas te demander comment tu vas voir la situation évoluer, parce que d'abord, personne ne le sait trop, mais est-ce que tu penses qu'il y a suffisamment d'espoir dans certaines parties de la population pour continuer à essayer d'inventer justement des choses enfin de passer de la situation de défense qui est absolument nécessaire, mais à la situation d'offensive. C'est-à-dire, tu as parlé de ces initiatives. Bon, est-ce qu'elle pourrait pas petit à petit se référer? Est-ce que par exemple, pourrait pas se mettre en place sur le plan alimentaire un peu d'une généralisation, ce que nous on propose, enfin on appelle ça alternative anarchiste en acte, bon, peu importe le mot, mais des circuits courts, des gestions comme ça. Moi par exemple, j'étais en Pologne, ils avaient commencé à refaire démarrer, à gérer l'énergie. Et c'est d'ailleurs ce qui a précipité l'intervention de l'armée russe, hein, qui a accusé Solidarność d'être anarcho-syndicaliste. Hein, j'ai le texte. Donc au-delà de ça, après tout, quels que soient les mots qu'on met dessus, est-ce que tu penses qu'il y a suffisamment de force et d'espoir pour que puissent se fédérer quelques-unes de ces initiatives et effectivement être en partie à l'offensive? Bon, c'est peut-être beaucoup demandé aux Grecs parce que déjà il faut qu'ils survivent, ils en prennent plein la gueule et malheureusement c'est de pire en pire. Mais voilà, ils tressent, oh, bon, 10 millions de minutes pour refaire le monde.
Alors il se passe une période assez particulière puisqu'on traverse un désespoir qui me semble bénéfique. Je pense que c'est Léo Ferré qui, dans La Solitude, disait que le désespoir est une forme supérieure de la critique et qui avait commenté cela en disant qu'en quelque sorte, il fallait traverser le désespoir, aller jusqu'au bout dans cette démarche, sans trop trébucher, on va dire, pour arriver à atteindre une forme de lucidité permettant de construire tout à fait autre chose. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui se produit. Et finalement, cette autre chose peut être plus ou moins joyeux, bien qu'ayant perdu beaucoup de plumes en chemin. Il y a un côté 1-0-1 quelquefois dans les campagnes. Là, je rentre de Crète, par exemple, et oui, on n'a pas choisi de faire ce pas de côté, mais finalement, en y en réfléchit, c'est pas si triste. Alors, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Je sais que après, on m'accuse de faire des clichés quelquefois, d'être plutôt un peu trop gay dans la vision des choses. Mais franchement, moi, je rencontre des gens qui sont extrêmement heureux d'avoir réussi à rencontrer, à retrouver certains autour d'eux qui avaient complètement perdu la tête dans le système, à tous les niveaux, le système médiatique, qui passait beaucoup de temps devant la téloge, qui était complètement aliéné par ce consumérisme qui nous conduit au supermarché ou ailleurs sans cesse à trouver des solutions à nos problèmes par le biais du pouvoir d'achat, si tant est qu'il en ait un. Et aujourd'hui, finalement, par le biais de la contrainte dont on parlait au début de l'émission, il y a une remise en question profonde qui a lieu, qui passe par le désespoir, qui passe par une souffrance, une vraie souffrance, une terrible souffrance, mais qui conduit à une reconstruction de fait, pour peu qu'on ait un peu de contact autour de soi, d'accès à la culture, de possibilité de rencontrer ces fameuses alternatives qui naissent de plus en plus ici et là. Et là, on peut vraiment créer des solidarités et se remettre en question dans son rapport à la vie, dans son rapport au temps, dans son rapport à l'espace. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est que les gens reprennent le temps de vivre. Et en Crète, en particulier, mon île, puisque je suis originaire de Crète, mon père est crétois, c'était quelque chose de très important autrefois. En Crète, il y avait des dictons qui insistaient sur le fait de savoir prendre le temps. Des dictons qui disaient « ça tombera pas plus bas quand vous êtes tombé quelque chose », mais aussi qui insistaient beaucoup sur la nécessité de prendre le temps de vivre. Et Moustaki et bien d'autres en ont beaucoup parlé en France, mais dans leurs chansons. Mais en Crète, c'était des dictons. Vous savez, en Grèce, on dit que quand on est crétois, on vous demande « mais tu es marin ou tu es écrivain ?» C'est forcément l'un des deux pour le grec à l'égard du crétois. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'aphorismes qui viennent de cette petite île. Et je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, bien qu'il soit un peu balbutiant sur certains plans.
Jean-Pierre.
Oui, je revenais un peu en arrière là. C'est superbe, j'aime beaucoup. Mais tout à l'heure, quand on parlait de la grève des aciéries où l'extrême droite était venue avec le soutien, malheureusement, des syndicats, soutenir ce ouvrier qui a précipité la fin de la grève. Cette extrême droite grecque est originaire de quel milieu social? Ouvrier déshérité, petite bourgeoisie
Alors déjà, le noyau dur, c'est des jeunes fanatisés. C'est pas le noyau dur au sens du bras armé, hein, de l'action proprement dite, qui ont un comportement presque de hooligan, on va dire, qui sont complètement fanatisés, qui rêvent à la Grèce antique, à je ne sais quoi, en faisant allusion à ce fameux panhellénisme que regrettent un peu certains Grecs. Hein. C'est vrai que les Grecs ont été tellement humiliés est tellement peu soutenue par la communauté internationale durant plusieurs crises politiques et géopolitiques, comme par exemple l'affaire de Smyrne devenue Izmir dans les années 1919-1921, après le traité de Versailles et le changement, le déplacement des communautés, puis par exemple la guerre civile grecque, etc. Dans plusieurs périodes, il y a eu des difficultés de la Grèce, par exemple l'histoire de Chypre aussi, des difficultés, ou l'histoire de la Macédoine également. Il y a eu quand même un certain nombre de problèmes durant lesquels les Grecs se sont sentis un petit peu seuls. Et c'est vrai que depuis 1821-1830, c'est-à-dire l'indépendance par rapport à l'Empire ottoman, ils ont souhaité retrouver plus ou moins des frontières d'origine qu'ils n'ont jamais complètement retrouvées d'après eux, au niveau de la langue par exemple, du rapport entre le territoire et la langue parlée. Et donc ça a conduit à une forme de panhellénisme sous-jacent dans le prisme politique, qui d'ailleurs apparaît dans toute la gauche. Hein. Théodorakis, par exemple, bien que moi je l'apprécie beaucoup, c'est quand même quelqu'un qui, lors de l'affaire de Macédoine, a été très nationaliste par rapport à l'histoire du drapeau de la Macédoine, etc., du nom Macédoine. Il y a ce côté-là très présent, et comme je le disais tout à l'heure, le PASOK s'appelle Parti Socialiste Panhellénique. Ce qui veut tout dire, panhellénisme, pan-germanisme, je pense que vous voyez à quoi ça fait allusion. Donc du coup, il y a un terrain plutôt favorable et qui permet à des jeunes d'être très fanatisés. Mais les penseurs de ce mouvement sont plutôt à chercher du côté des militaires et d'une certaine catégorie de policiers qui, d'après le journal Tovima, on en parlait tout à l'heure lors du débat, aurait voté à plus de 50% pour Obdoré, donc Klessi Avgi, le parti néo-nazi. Alors comment on peut expliquer ça? Pour une raison très simple, c'est qu'en 81, 7 ans après la fin du putsch des colonels, et au moment de l'entrée de la Grèce dans la communauté économique européenne, le nouveau président de la République, qui s'appelait Papandreou, l'oncle de l'actuel Papandreou, Andreas Papandreou, il s'appelait lui, a décidé d'amnistier quasiment la totalité de ceux qui avaient collaboré au régime, notamment parmi les militaires et parmi les policiers. Une affaire des fiches comme en 1905 en France, mais à l'envers, on ne fait pas le nettoyage, on fait le contraire, on les laisse. Et du coup, le résultat, c'est que ces personnes-là, encore au pouvoir dans la force publique, censée être en tout cas dans cette situation-là, est extrêmement dangereuse et s'allie souvent avec ces milices lors de manifestations. Voilà. Donc, je pense qu'on peut vraiment trouver sur ce terrain-là la plupart des énergies de ce mouvement. Et pour avoir essayé d'enquêter un petit peu sur le sujet et avoir discuté avec quelques-unes de ces personnes sans révéler ma provenance, j'ai remarqué qu'ils se sentaient pas du tout proches du Front National en France, mais d'un parti encore plus radical que le Front National et qui pèse, je crois, 2 ou 3 000 membres en France. Ça s'appelle le Parti Solidaire Français. Oui. Et c'est un parti qui se dit de gauche et nationaliste, donc national-socialiste en l'occurrence, mais clairement, et qui d'ailleurs a un site, vous pouvez fouiller un petit peu si vous voulez vous intéresser à la question, et qui a déjà rencontré, semble-t-il, non seulement le parti fasciste italien, mais aussi donc le parti Klessi Avgi. Ouais.
Je crois que qu'on va bientôt terminer, donc je fais quand même un certain nombre de rappels. D'abord le film qu'on a évoqué avec deux et avec Samuel Val et aussi je m'en rappelle plus.
Et Réjeanne Trémel.
Ouais. Et que on souhaite ardemment, nous aussi à Radio Libertaire, qu'il soit utilisé pour introduire des débats. Donc on pense de toute façon certainement que dès la rentrée en septembre, Samuel va recevoir des sollicitations de compagnons anarchistes et sans doute d'autres, hein, on espère.
Si, si vous voulez le diffuser au-delà de la France, parce qu'il circule bien ici, il y a un autre mot clé, je crois que c'est Greece Cradle of the World. Greece Cradle of the World. J'ai vu que, parce qu'on me fait suivre des choses, qu'il avait été traduit dans plusieurs langues, et notamment il y a une version sous-titrée en anglais qui permet de voir à la fois en français mais en même temps de pouvoir le forwarder à n'importe qui, quoi.
De toute façon, comme on a une émission par ailleurs hebdomadaire à Radio Libertaire, on le rappellera en fin de nos prochaines émissions.
C'est les gens d'Occupy Wall Street qui l'ont fait, c'est ce qu'on m'a dit.
Voilà, et donc on remercie Samuel d'être venu, et Yanis aussi, dont je rappelle les deux livres qu'on peut se procurer, qui sont relativement récents, « Paroles des murs d'Athènes » et « Derrière les mots », aux éditions Libertaires, qu'on trouve à Publico et dans d'autres librairies. Et puis, je pense qu'avec Yanis, on aura l'occasion, parce que moi je pense que c'est extrêmement important de suivre une situation... Moi, des choses qui me révulsent dans les médias, au-delà de leur déformation, c'est il y a des sujets à la mode et après on n'en parle plus. Voilà. On me fait signe, il y a des ciseaux, visiblement, j'ai oublié mes ciseaux. Et voilà, donc on reparlera avec Yanis certainement à l'occasion, quand il vient à Paris, de la situation en Grèce. Et puis surtout, à travers ce désespoir, on va arriver à des espoirs et des initiatives.
Merci à tous.
Merci.
Merci.
Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Si comme moi tu penses qu'il faut se radicaliser contre l'ordre établi, refuser d'obtempérer si t'en as marre de ressembler à un mouton, si t'as l'audace de Rosa Parks, si t'as compris Franz Fanon, appelle-moi camarade si tu sais pas rester dans le rang, si t'as la flamme, l'espoir et le couteau entre les dents, si t'enrages quand t'inflictes des visages, si t'étouffes comme un tolard dans sa cage, appelle-moi camarade si t'as capté les mécanismes, les rouages du système, comment ils neutralisent, comment ils manipulent, désinforment et nous divisent, reste lucide parce qu'il est l'heure qu'on se mobilise, si tu je pense qu'on est du même côté de la barrière, du même côté du mur, du côté lanceur de pierre, du côté des larmes, du côté de la misère, du côté palestinien, tu peux m'appeler mon frère. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade.
Sont les tiennes sont les miennes, bref nos peines sont les mêmes, on se démène pour éviter l'abattoir, ouais je me démerde, merde sans perte de vue l'étoile qui m'a dit pas toi, je manie la plume comme Marcos, la rage une cassosse, prête à lâcher le mic s'il faut mourir pour la cause, je rappe la force, je rappe l'espoir, je rappe la fratrie, issue d'une génération endormie par la matrice, enfant de l'insomnie, bordé par le macadam, percé par le vague à l'âme, appelle-moi camarade, cause d'un monde bien malade, tout le monde s'en bat la rage, braque les haut-parleurs avec des rimes dans lesquelles parle la rage, anti-norme, impossible à encarter, autonome comme les anars à cran, comme les frères de quartier. C'est l'heure de s'unir car l'urgence nous rattrape. Dans le meilleur ou dans le pire, on est ensemble, camarades.
Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade.
Ils ont enfermé nos rêves, braqué nos idéaux, ils ont canassé nos révoltes, ils ont fait taire ceux qui parlaient trop. Ils ont jugé que nos colombes obscurcissaient leur ciel, ils les ont toutes butées de leur sang, ils ont fait leur miel. Silence on tue, silence on assassine, on élimine tous ces illuminés qui voudraient changer le scénario du film. Leurs dessins, on les connaît par cœur, je veux pas te refaire le tableau. Ce monde est hardcore, patrie, pétrole et pouvoir, leur chef-d'œuvre du grand art, y'a qu'à regarder pour voir. On est mort sans savoir, comme asphyxié, en perte d'oxygène, comme enchaîné à la destinée de ces cités où la bourse règne. J'étouffe, j'aimerais tellement changer d'air, mais au fond de moi je sens bien que c'est ce putain d'air qu'il nous faut changer. C'est une simple question de survie, bien plus qu'une croisade, armée de l'ombre en embuscade, vamos camarade.
Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade.
Des grenouilles vivantes dans de l'eau bouillante, elles se débattent, elles se débrouillent pour se sauver d'une mort violente. Mais tentons donc une expérience, allons-y petit à petit, histoire de les mettre en confiance. 1, 2, 3, 4, c'est parti.
L'eau était fraîche, elle était bonne, elle se sentait bien dedans, pas une goutte de carbone, un grenelle de l'environnement.
Elles en oubliaient, c'est mignonne, le décor un peu oppressant.
C'est sûr, au début ça étonne, le métal gris c'est déprimant.
On leur
Allez, c'est une échelle pour y grimper socialement.
Les humains sont vraiment cruels
et les batraciens trop confiants pour améliorer l'esthétique.
Quelques cailloux multicolores, un panier
en matière plastique,
un peu de faune,
un peu de flore. C'est là qu'on plaint des grenouilles, qu'on plonge dans une cocotte. Bien que l'eau chauffe ses andouilles, s'endorme vautré dans la flotte. Quand l'eau tiédit, ces créatures se disent
voilà le printemps,
comme on le fait dans la nature.
Se mettent à faire des enfants,
mais il fait chaud, c'est épuisant.
Des bulles émergent à la surface qui scintillent comme des écrans.
Voilà, dis pas que c'est gourdasse.
Hypnotisés par la fumée, asphyxiés par les colorants,
ne peuvent déjà plus bouger,
victimes d'un réchauffement.
Et quand enfin l'eau pousse, elle conne, réalise mais un peu tard
que la force les abandonne.
Elles agonisent sans gloire. Tâchons de devenir humains, renversons ceux qui nous maltraitent, nous traitent comme des amphibiens.
Et si on nous disait demain, toutes les écoles sont privées, adieu la gratuité des soins, pour ta retraite c'est terminé. Alors d'un seul coup échaudé, on partirait immédiatement, la population révoltée renverserait le gouvernement.
Mais ça, ça n'arrivera pas. Ils y vont petit à petit,
réforme par-ci,
réforme par-là.
Ils nous veulent dociles, affaiblis. On a le droit de se balader entre république et nation. Et le lendemain, on tout bosser. Au bout du compte, on tourne en rond. On est déjà dans la cocotte. L'eau a commencé. Ça devient urgent qu'on s'en sorte.
Mais quand est-ce que ça va péter ?